conférence de fin d'année à Fountain Valley. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi dans le livre d'Hébreux. Partie 3, chapitres 11 à 13. Message 2. On peut continuer. Nous avons tous reçu une foi du même prix. Parce que c'est la foi de Dieu qui est précieuse. C'est vraiment, vraiment précieux. Comme on a dit, on ne peut pas le définir. Cette définition n'est pas une définition de ce qu'est la foi, mais la substance elle-même. Mais cette foi est la foi de Dieu. Dieu a ce pouvoir, cette autorité, cette caractéristique indescriptible qui est la réalité. Aucun d'entre nous n'a une telle capacité de dire les choses et que ça apparaisse. Même toute la création, nous dit Romains 8, attend la manifestation des fils de Dieu. Qu'ils sont soumis à la destruction à cause de la chute de l'homme. On peut voir cela dans toute la création. Ce qu'on voit au chapitre 1. On peut aller rapidement au chapitre 1. Parce que Hébreux évoque beaucoup de choses concernant Christ. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. L'univers a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. C'est magnifique. Et pour nous, bien sûr, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Je ne crois pas que l'un d'entre nous ait la capacité d'appréhender une telle puissance. Mais lui, cette foi est la foi de Dieu. Et dans le livre de Marc, si on regarde la phrase en grec, il parle de la foi de Dieu. Il y a très longtemps, quand j'ai réalisé cela, il y a plusieurs années, j'ai réalisé, c'est vraiment puissant. Comme quand le Seigneur a maudit ce figuier et que le lendemain, il était sec, en un jour. Ce magnifique figuier qui était plein de feuilles, il était sec. Et le lendemain, Pierre lui a dit, regarde Seigneur. Et là, Dieu lui dit, si tu avais la foi de Dieu, c'est pas juste croire en Dieu, c'est pas juste croire en Dieu, mais avoir la foi de Dieu. Le Seigneur l'a dit et c'est arrivé. C'est arrivé par la foi de Dieu. Et ça fait partie de sa nature, de son être. Ce qu'il dit s'accomplit. Sa parole est une parole vivante, de puissance. Nous aimons tous dire un homme, une parole. La parole d'un homme, c'est une expression en anglais, je crois. Ce que nous disons compte. Mais très souvent, ce que les hommes disent ne compte pas. Un homme, beaucoup de paroles, et rien ne compte. De temps en temps. Mais peu de personnes gardent leurs paroles. Même si tu gardes ta parole, c'est même pas une parole de puissance. Mais la parole de sa puissance, c'est pourquoi dans Hébreux 12, il nous dit aussi que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et c'est aussi marqué dans 2 Corinthiens 4, 13 que nous avons tous reçu le même esprit de foi. Ce qui signifie qu'après être né de nouveau, la foi. Pardon, c'est 2 Corinthiens 4, 13. Comme il dit aussi dans Romains, la parole qui a été semée en vous par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on peut avoir l'amour de Dieu, sinon on n'a que l'amour humain. Mais Paul dit, nous avons tous le même esprit de foi. Ne dis pas, oh, il est plus fort, mais moi je suis faible. Non, nous avons tous le même esprit de foi. Parce que c'est la foi de Dieu qui t'a été donnée. Nous avons reçu une foi du même prix. Mais nous devons mélanger la parole de Dieu avec la foi. C'est une clé importante. Ça veut dire que ça dépend de toi. Comment tu emploies cette foi? Tu dois l'activer. Tu dois apprendre comment ne pas être passif, mais être actif dans cette foi. Pour la mélanger avec la parole de Dieu. Ne crois pas juste n'importe quoi que disent les gens. La foi ne fonctionne pas juste en croyant n'importe quoi. Mais la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Elle existe par la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu, tu dois la mélanger avec la foi. Pas juste certaines doctrines que t'enseignent les gens. Mais chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu lis la Bible, quand il parle. Médite cette parole que Dieu te donne. Prie avec. Mélange-la par la prière, par l'esprit de foi. Et tu vas voir la substantification. Ce mot est très très important. N'écoute pas juste. Comme dit Jacques, ne sois pas juste quelqu'un qui écoute. Et ensuite tu rentres chez toi et rien ne se passe. Mais sois actif. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Et ce désir de faire, d'expérimenter la réalité de ce que Dieu t'a dit. Et ça va t'amener à la substantification, à l'évidence, à la réalité. Entrons dans ces différents personnages rapidement, ces exemples de foi d'ici. Dans Hébreux 11. premier homme mentionné ici, c'est Abel. Un des deux fils, Abel et Caïn. Par la foi, Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant. C'est Dieu va rendre témoignage de ce que tu offres. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est magnifique que la première chose mentionnée dans cette histoire de la foi, c'est le fait d'offrir un sacrifice plus excellent. Que tu l'aimes ou non, c'est écrit. Si tu dis on n'a pas besoin d'offrir des offrandes, enfin, d'accord, tu es libre de croire ce que tu veux. Mais dans l'histoire de la foi, le premier exemple qui nous est donné, c'est l'offrande plus excellente qu'Abel a offerte. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, parce qu'il n'a pas juste apporté n'importe quoi de lui-même. Parce que nous, dans notre nature, nous sommes déchus, sommes injustes. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il dit dans le verset ? Combien de personnes sont justes ? Aucune, pas même une seule. Donc tu ne peux rien apporter de toi-même. Ce n'est pas la justice parce que je ne suis pas juste. Aucun de nous n'est juste. Nous devons apporter Christ. Christ a témoigné qu'il était juste. Dieu approuvant ses offrandes. On doit demander à Dieu. Qu'est-ce que nous lui apportons ? Apportons-lui le meilleur. C'est ce qui est écrit. Le meilleur de nos expériences de Christ. Les offrandes ici. Le meilleur des animaux de son troupeau en offrant le sang pour la rédemption. Selon l'exemple de Dieu qui a sacrifié un animal pour racheter Adam et Ève de leur péché. Caïn a juste apporté quelque chose de son effort. On doit apporter ce qui plaît à Dieu. Et la seule chose qui plaît à Dieu, c'est Christ. Et par la foi, Abel a cru ce que Dieu a dit. Et il a apporté ce que Dieu demandait. N'apportons pas juste n'importe quoi, mais apportons Christ. C'est pour ça qu'on a Lévitique. Combien d'offrandes sont là dans Lévitique ? L'Holocauste, de fleurs de farine, l'offrande pour le péché, pour les transgressions, l'offrande de paix par élévation et par... je sais plus. On a toutes ces offrandes-là et la libation encore qu'on peut offrir à Dieu le Père. Et toutes les fois qu'on reçoit le pardon... pardon de nos péchés et qu'il efface nos transgressions. Qu'est-ce que c'est ? On peut apporter là une offrande pour les transgressions et pour le péché. On a le véritable pardon. L'offrande par agitation et par élévation. Encore. Ne nous justifions pas. On aime toujours beaucoup se justifier. Si tes parents te disent quelque chose, Non, je suis pas comme ça. Pas ceci, cela. On se justifie toujours. Mais avec Dieu, apportons de telles offrandes. Nous sommes vraiment reconnaissants que Christ ait offert son précieux sang pour nos transgressions. La première offrande, c'est l'Holocauste, c'est de faire la volonté de Dieu. Apprenons à offrir le meilleur. C'est pas les transgressions, la première offrande. Et Caïn, que se passe-t-il à son sujet? Rien. Il y a juste son nom qui est mentionné. Après, on a Enoch. Tu aimerais être un prémisse, être enlevé. Je crois qu'on aimerait tous. Qui ne veut pas? Nous voulons tous être comme Enoch. Je suis heureux que le deuxième mentionné ici soit Enoch. Quelqu'un bientôt qui va s'appeler Enoch, n'est-ce pas? C'est un bon nom. Enoch fut enlevé. Il a été enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Combien de fois dis-tu au Seigneur, je ne veux pas goûter la mort, je veux être enlevé. Nous vivons dans un temps où il est très possible que nous ne goûtions pas la mort, mais que nous puissions être enlevés. C'est une magnifique promesse. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous voulez être comme Enoch? Ce n'est pas un moment pour mourir. Car nous avons la possibilité d'être enlevés pour nous tenir avec l'agneau sur le mont Sion. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 16. Certains d'entre vous ne verront pas la mort qu'ils n'aient vu le royaume venir. Et Pierre a rendu ce témoignage qu'il a vu la majesté de Jésus. Bien sûr, à cette époque, ils ont vu, avec Jacques et Jean, ils ont vu le Seigneur être transfiguré, ils ont vu sa gloire. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir quelque chose de mieux. Nous pouvons voir l'enlèvement et nous tenir sur le mont Sion devant le trône. Est-ce que c'est pas excitant? Je ne sais pas si vous trouvez ça excitant ou pas. Sarah, est-ce que tu trouves ça excitant? Est-ce que tu es pressée de voir comment, à quoi ça va ressembler? Ou est-ce que c'est plus excitant de voir le parc national? Mais avons-nous ce désir d'être pris, d'être enlevé? C'est vraiment magnifique. Il n'a point testé la mort. Mais si le Seigneur revient et que tu es encore trouvé sur cette terre, ce n'est pas bon signe. Si tu es encore sur cette terre quand la bête arrive, es-tu content? Est-ce que ce sera une bonne nouvelle? Non. J'espère vraiment qu'aucun de nous ne vivra une telle chose. J'aime beaucoup ce mot. Et il ne fut plus. Il ne parut plus. On ne le trouva plus en anglais. Parce que Dieu l'avait enlevé. C'est le seul moyen de partir à cette époque-là. Et nous croyons qu'un tel temps vient. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu de Dieu ce témoignage qu'il était agréable. Combien de fois as-tu fait des choses où tu as reçu un tel témoignage? Tu as obéi à Dieu Et il a dit, voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Comment le Seigneur Jésus a pu plaire à Dieu. Parce qu'il était fils de Dieu, simplement? Non, c'est parce qu'il a fait ce que le Père voulait. Et il a pu dire, écoutez-moi, car j'ai accompli tout ce que le Père voulait. Je crois que c'est ça que ça signifie de marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, il va te révéler beaucoup de choses. Il va te parler. Ça dépend comment tu réagis à ce qu'il te dit. Est-ce que tu acceptes sa parole, tu dis oui et tu l'appliques directement? Marcher à côté du Seigneur, suivre l'agneau partout où il va. Oui, le Seigneur, il a ce témoignage . Personne ne peut te donner un tel témoignage, n'est-ce pas? Seigneur, nous voulons être les personnes qui te plaisent, qui marchons avec Dieu. Pour moi, vivre, c'est Christ, dit Paul. C'est une autre manière de dire que nous marchons avec Dieu. Et ensuite, au verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Se dire qu'il y a notre collaboration, d'amener en substance tout ce qu'il dit, de l'amener en réalité. Tu veux avoir la substance, tu veux l'expérimenter, tu veux l'évidence. C'est vrai et c'est magnifique. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est. Qu'est-ce qu'est Dieu pour toi? Il est quoi? En anglais, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il dit pas que. Il est Dieu. Satan aussi croit qu'il est Dieu. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est dans ta vie quotidienne? Tu dis qu'il est Dieu, mais tu vis ta vie quotidienne comme s'il ne t'entendait pas, comme s'il ne voyait pas ce que tu fais. Tu ne l'écoutes pas, tu ne vois pas, tu n'as pas un cœur qui lui dit « Seigneur, je veux te connaître » dans ta vie quotidienne. Paul disait « Je veux le connaître ». Lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. « Je veux le connaître », comme s'il ne le connaissait pas assez. Il avait cette conscience qu'il ne le connaissait pas assez. Si je te demande qui est Dieu, est-ce que tu vas commencer par me répondre, il est invisible? Il est invisible, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux le voir? Oui, tu peux le voir, mais pas avec tes yeux physiques, avec les yeux de ton cœur, de ta compréhension. Quand ils sont éclairés pour que nous le connaissions. Il est Dieu. Nous avons tellement plus à connaître de lui dans notre vie quotidienne. Est-ce que tu as la conscience de sa présence? Tu fais tout ce qui est... Tu marches avec lui? Est-ce que tu l'écoutes? Il est. Il est. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. si tu as le désir de le connaître. Il est tellement de choses. Tu peux pas le connaître assez, tu peux pas l'exprimer. Peut-être que tu crois qu'il est. Il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est important de chercher Dieu. Pas juste de le chercher de temps à autre, quand on en a besoin. Oh, où es-tu, Dieu? J'ai besoin de savoir, t'es où? Et alors, quand t'as des problèmes, tu appelles Dieu. Mais tant que t'as pas de problème, t'es tellement occupé à faire plein de choses. Tu fais des milliers de choses. Ça a l'air que Dieu soit si loin. Mais on a besoin d'avoir un tel désir de le connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te poursuivre. Je poursuis à l'achèvement de la course. Être diligent est vraiment important. On a besoin de cette persévérance. D'être diligent. On est diligent dans plein de choses. Je ne sais pas avec quoi tu es diligent. On a besoin d'être diligent en cherchant Dieu. Assidu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ensuite, verset 7. Noé est une personne très importante. Souvenez-vous d'Abel à Noé. Il y a une certaine section de la Bible. Au tout début. Dans l'âge, quand Dieu a tout créé, Adam est tombé. Et puis ensuite, jusqu'au temps de Noé, il y a eu un développement terrible. Et Dieu a dû juger et détruire toute chose. Parce que tout était tellement corrompu. La nature humaine était devenue tellement mélangée. Elle n'était plus là. Elle était mélangée avec des fils de Dieu. C'était un mélange entre l'homme et les anges déchus. Ça, c'était les géants. Aujourd'hui, ils sont appelés les reptiliens. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais ne croyez pas que ça ne va pas se passer à nouveau. Parce qu'il dit que le jour de Noé sera comme le jour de son retour sera comme au jour de Noé. Je dire. Je veux pas trop en dire. Mais Noé, Noé est une. C'est important ici, toute cette durée d'Abel jusqu'à Noé. Enoch avait déjà reçu cette révélation qu'il y aurait le déluge. Et son fils a vécu plus de 900... a vécu 969 ans. Il savait qu'à sa mort, le jugement viendrait. Enoch a marché pendant 300 ans. Et puis, à 65 ans, il a eu son fils. Et ensuite, il a marché 300 ans. Donc si on voit l'âge de son fils, Mais tu sais là qui, avec 969 ans, ça montre que la révélation d'Enoch était quand même longtemps avant l'arrivée du déluge. Qu'en est-il de toi? Si tu sais, oh, le déluge va venir dans 969 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? Oh oui, j'ai le temps. Oh, j'ai le temps, je vais prendre mon temps. Je vais faire ceci, cela. Oh, j'ai encore tellement de temps. Si tu as 969 ans devant toi, que crois-tu? Est-ce que c'est beaucoup de temps? Tu vas juste prendre ton temps, n'est-ce pas? Oui, mais t'as pas besoin de marcher de manière tellement intense avec Dieu pendant 300 ans. C'est bon, c'est juste un tiers. C'est bon, t'as en tout cas trois fois ces 300 ans. C'est bon, t'as le temps. T'as pas besoin de marcher avec Dieu tous les jours. Fais-le lentement. C'est pas l'attitude qu'a eu Enoch. Il n'a pas perdu de temps. Il a appris à marcher avec Dieu. Parce que ça demande du temps d'apprendre à marcher avec Dieu. Si je désire marcher avec Dieu, fais autre chose. Je vais faire ce que j'aime. Oh, je le suivrai demain. Je marcherai avec Dieu demain. Oh, Seigneur, j'ai encore le temps. Surtout si tu sais qu'il reste autant de temps. Qu'aurais-tu fait? Attendre jusqu'à la dernière seconde, exactement comme t'as fait à l'école. T'attends que l'examen arrive pour te mettre à l'étude. Et finalement, tu travailles jour et nuit, la semaine avant. N'est-ce pas ainsi? Ou bien il te fallait que deux jours? C'est notre nature déchue. On ne rachète pas le temps. Et il a appelé son fils Methuselah. Chaque jour qu'il voyait son fils, que penses-tu qu'il ait? Que crois-tu qu'il ait pensé? Chaque fois qu'il disait à son fils, viens, oula, il devait se souvenir que le jugement de Dieu venait. On a besoin que ces choses nous soient rappelées. Les gens pensent, ah, il vient pas, regarde, il y a déjà 2000 ans, il est toujours pas venu. Justement, après 2000 ans, crois qu'il va venir. Mais Noé était à une époque où le déluge allait arriver. Le déluge allait arriver. C'est pour ça que Methuselah a vécu si longtemps, parce que Dieu attendait aussi le bon moment. Alors, est-ce qu'on vit dans le temps de Noé aujourd'hui? Es-tu un Noé? On dit que Noé était un homme juste et intègre, un homme parfait. Et il marchait aussi avec Dieu, comme Enoch. Mais c'était pas suffisant à cette époque. Il y a toujours quelque chose de plus. L'expérience de Noé devait aussi croître, de même que notre expérience avec Christ doit croître. Et à ce moment-là, Noé a construit une arche. Que construisons-nous aujourd'hui? Quelle est notre arche aujourd'hui? C'est le royaume sacerdotal, le royaume de sacrificateurs. L'arche est une image de Christ à l'époque de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a construit là? Il a construit un tabernacle, pas juste une arche, mais un tabernacle. Et une nation, un royaume de sacrificateurs. Et ensuite, à l'époque de Salomon, il y a eu un temple grand, puissant, beaucoup plus grand qu'une arche, beaucoup plus solide que l'arche. Et aujourd'hui, Dieu construit la Jérusalem céleste, la Jérusalem pas faite de main d'homme, pas faite de main d'homme. Elle n'est pas de cette création. Mais faite d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, avec la réalité de Christ, avec la substance céleste. Il y a tellement d'églises construites par la main de l'homme. Dieu va tout ébranler. Seul ce qui est inébranlable subsistera. Aujourd'hui, nous sommes les Noé de ce temps. Et si on a une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, on va voir combien cet âge est mauvais et méchant. On vit vraiment dans des jours semblable au jour de Noé. Donc Noé a bâti une arche et par l'édification de cette arche, il a condamné le monde. Les gens à cette époque ont vu l'arche et ils ont certainement demandé à Noé: Qu'est-ce que tu fais à construire une chose aussi énorme? Que leur disait Noé à votre avis? Oh, c'est une pièce d'art. Qu'est-ce qu'il leur annonçait d'après vous? Le déluge, le jugement de Dieu vient. Le jugement vient. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Que par la construction de l'arche, il a condamné le monde. Il a préparé une arche parce qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Mais comme nous, aujourd'hui, les gens se moquent. Oui, mais tu dis que Dieu revient, mais il n'est toujours pas là. Mais que fait-on? On a besoin d'une crainte respectueuse. Noé, avec cette crainte respectueuse, comme ses ancêtres, comme Enoch. Il était aussi animé par cette crainte respectueuse. Est-ce que la crainte de Dieu, ça te parle? On a mis l'accent là-dessus dans Malachie. Et de servir Dieu avec révérence et crainte divine. Dans les psaumes, il dit qu'il apprécie pas, c'est pas la force du cheval ou la force de l'homme, les jambes de l'homme qui sauvent, mais c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que nous bougeons, nous sommes animés par la crainte de Dieu? Ça veut dire que nous savons, nous connaissons le plan de Dieu, nous en faisons partie. À ton travail, est-ce que tu n'as pas du respect pour l'entreprise qui t'emploie? Es-tu nerveux d'aller au travail? Non, mais tu as du respect. Avoir une crainte, une saine crainte, signifie qu'on a cette crainte respectueuse. Souvenez-vous que dans notre famille, notre foyer, prends pas juste soin de toi, mais aussi de ta famille. Il a été sauvé avec sa famille, avec son foyer. Les enfants des saints ne seront pas perdus. Nous devons prier pour eux. Priez qu'ils aient la sagesse et la compréhension. Priez pour eux. Regardez d'Enoch à Noé. Il a eu cette sainte crainte. Crainte divine. Non, pour le salut de sa famille. Il a aussi condamné le monde. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il est devenu héritier du royaume, en fait. Est-ce que tu n'as pas envie d'hériter du royaume? Que vas-tu hériter? Qu'as-tu envie d'hériter quand le Seigneur revient? La société de Tesla, ou bien, enfin une Tesla, ou bien la société Apple? Mais il va faire de nous des gouverneurs pour gouverner avec lui, comme Melchisédek, un roi de paix. Est-ce que c'est ton désir d'hériter cela? Que veux-tu hériter? Si tu as autre chose de mieux à hériter, dis-moi. J'aimerais savoir. Yasmine, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu veux hériter d'une société d'architectes? Non, la meilleure architecte, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de plus grand architecte que Dieu. Lui-même, il est celui qui bâtit toute chose. Il est écrit dans Hébreux 5. Donc, tu as meilleur temps d'apprendre de Dieu. Apprends de Dieu comment être un bon architecte. Qu'est-ce que Dieu ne soit pas? Il est tout, même architecte. On peut apprendre de lui. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tout revient à la foi. Donc si tu ne crois pas aujourd'hui, que tu ne travailles pas, et que tu n'as pas la substance aujourd'hui, jour après jour, alors quand le jour viendra, vas-tu être un héritier de la justice à venir? Quand est-ce que cet héritage commence? C'est bien. J'ai pas entendu la réponse. S'il te plaît, rappelle-le-nous tous. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce que si on n'a pas la substance, étape par étape, on ne va pas atteindre cela. Mais vraiment par la foi, on peut avoir cette évidence. Le Seigneur va en témoigner. sur le chemin de la sanctification, le chemin de la justice. Seigneur, va témoigner à Seigneur, que dis-tu de ma condition? Est-ce que je suis mieux qu'avant? Où est-ce que j'en suis dans ma transformation? Tu peux vraiment regarder à toi-même et demander au Seigneur, est-ce qu'il y a de la transformation en moi? Est-ce que tu ne sais pas quel âge tu as maintenant? Est-ce que tu ne sais pas en tant qu'humain ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui? Mais tu es un témoignage vivant de ce que tu as accompli, n'est-ce pas? Ou de ce que tu n'as pas accompli. Et qu'en est-il spirituellement? Nous devrions savoir. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Mais si toi-même tu ne peux pas avoir tes progrès, mais Dieu va pouvoir témoigner. Demande à Dieu. Où est-ce que j'en suis? Jusqu'où est-ce que je dois aller? Combien plus loin? Pour être un témoin. Pour être un héritier. Ça commence dans tes relations avec les autres, dans la vie de l'Église, dans ta vie privée et personnelle. Louez le Seigneur. Noé n'a pas construit cette arche en un jour, une semaine ou même un an. La préparation prend du temps. Et aujourd'hui, il est le temps de préparer. Ça a commencé. Pas autant d'Enoch, mais autant de Noé. Si on ne se prépare pas maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Mais commençons. Aujourd'hui, et chaque jour un petit peu. Dieu ne nous demande pas de construire en une nuit. Si le Seigneur avait demandé à Noé de construire l'arche en une nuit, il aurait dû envoyer tous ses anges en renfort pour aider. Et là, peut-être qu'il aurait pu le faire en une nuit. Mais il n'a pas eu cette aide. Dommage, n'est-ce pas? Qu'en est-il de toi? Qui va t'aider? C'est Christ en toi. Le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas quand ce sera suffisant. Une légion d'anges ne suffira pas si on ne commence pas aujourd'hui. Ça dépend. Quand et comment aujourd'hui nous amenons en substance par la foi. Cette parole, d'avoir cette évidence et ce témoignage de Dieu. On voit tout ce chemin d'Abel jusqu'à Noé. Amen. Louez le Seigneur. Amen. On peut avoir quelques prières.